Chapitre 10. La foire à l'embauche. L'esclavage est une tradition dans les États chalcèdes et constitue l'un des piliers majeurs de leur économie. On prétend là-bas que la principale source d'approvisionnement serait les prisonniers capturés à la guerre. Pourtant, une grande partie des esclaves qui fuient au Ciduché affirment avoir été pris lors de raids pirates contre leur contrée natale. La position officielle de chalcèdes et que ces attaques sont pure invention. Mais chalcèdes nie tout aussi officiellement fermer les yeux sur les activités des pirates qui opèrent depuis les îles marchandes. Les deux sont indissociables. Dans les Ciduchés, en revanche, l'esclavage n'a jamais été communément accepté. Beaucoup de conflits qui opposèrent jadis Orphon aux États chalcèdes avaient leur origine dans la question des esclaves plutôt que dans des querelles de frontières. Les familles de Orphon se refusaient à tolérer que les soldats blessés ou capturés à la guerre fussent asservis pour le restant de leurs jours. Et chaque fois que Orphon perdait une bataille, une violente attaque suivait presque immédiatement contre les États chalcèdes pour récupérer les hommes perdus lors de la première. Ainsi, Orphon finit par s'approprier un vaste territoire qui appartenait précédemment aux États chalcèdes. La paix entre ces deux régions est toujours précaire. Et chalcèdes ne cesse de se plaindre des habitants de Orphon qui non seulement donnent asile aux esclaves en fuite, mais encouragent les autres à se sauver également. Aucun monarque des Ciduchés n'a jamais nié ce fait. Mon unique but, désormais, était de rejoindre Vérité par-delà le royaume des montagnes. Pour cela, il me faudrait d'abord traverser tout Bauge, ce qui n'aurait rien de facile. Les régions qui bordent l'Avin sont certes accueillantes, mais plus on s'éloigne du fleuve, plus la campagne devient aride. Les terres arables sont consacrées à la culture du chanvre et du lin, mais au-delà s'étendent de vastes territoires découverts et inhabités. L'intérieur du duché de Bauges, sans être désertique, est une zone plate et sèche, qu'utilisent seuls les tribus nomades qui y déplacent leurs troupeaux en fonction des fourrages. Mais même elle la quitte après que les temps verts de l'année sont passés, pour se rassembler en village temporaire le long des rivières ou des points d'eau. Durant les jours qui suivirent mon évasion du château de Guet de Négoce, mes observations me conduisirent à me demander pourquoi le roi Magneur s'était donné la peine de soumettre Bauges, et plus encore d'en faire un des Ciduchés. Je savais devoir m'éloigner de l'Avin en direction du lac Bleu, au sud-ouest, traverser le lac en question, puis longer la Froide jusqu'au contrefort des montagnes. Mais ce n'était pas un voyage pour un homme seul. Et sans œil de nuit, c'est ce que j'étais. Il n'existe pas de grande ville dans l'intérieur. Bien que de vagues hameaux subsistent bon an mal an, autour de certaines des sources qui piquettent çà et là cette région. La plupart survivent grâce aux caravanes marchandes qui les traversent, car des échanges commerciaux s'effectuent lentement, certes, entre le lac Bleu et l'Avin, et c'est par cette voie que les articles des montagnes ont accès au Ciduché. À l'évidence, je devais m'intégrer par un moyen ou par un autre à l'une de ces caravanes. Cependant, ce qui est évident n'est pas toujours facile à réaliser. À mon entrée à Guet de Négoce, j'avais l'air du mendiant le plus misérable qui se pût imaginer. À mon départ, je portais des habits fins et je montais un des meilleurs chevaux qui eût été élevé à Castelserre. Mais après m'être séparé de Flèches, la gravité de ma situation m'apparut peu à peu. Je n'avais pour tout bien que les vêtements que j'avais volés. Mes bottes en cuir, ma ceinture, ma bourse, un poignard, une épée, plus une bague et un médaillon au bout d'une chaîne. Ma bourse, vide de tout argent, ne contenait plus que mon matériel pour faire du feu. Une pierre à aiguiser, pour mon poignard, et un bon choix de poison. Les loups ne sont pas faits pour chasser seuls. C'est ce qu'œil de nuit m'avait déclaré un jour. Et avant même le crépuscule, j'adhérais pleinement à cette affirmation. Mon repas de la journée avait consisté en racines de lie de riz et quelques noisettes qu'un écureuil avait rassemblées dans une cachette trop visible. J'aurais volontiers dévoré l'animal qui m'invectivait du haut d'un arbre pendant que je pillais sa réserve. Mais je n'avais pas les moyens de réaliser ce souhait. Et pendant que je cassais les noisettes à l'aide d'une pierre, je songeais que mes illusions sur moi-même étaient tombées l'une après l'autre. Je m'étais cru autonome, capable de me débrouiller seul, je m'enorgueillissais de mes talents d'assassin, j'avais même la conviction, tout au fond de moi-même, que malgré mon inaptitude à maîtriser mes capacités d'artiseur, ma puissance me faisait l'égal de n'importe quel membre du clan de Galen. Mais une fois disparue la générosité du roi subtil et les compétences synergétiques de mon compagnon loup, les renseignements discrets et les talents de tacticien d'imbre et l'encadrement de vérité sur l'art, il ne restait plus qu'un homme affamé, qui portait des vêtements volés à mi-chemin entre Castelserre et les montagnes, sans guère de moyens de se rapprocher ni de l'un, ni des autres. Si délectables que fussent ces réflexions dans leur morosité, elles n'apaisaient en rien le tiraillement constant de l'ordre d'art de vérité. Rejoins-moi. Avait-il fait exprès de graver ces mots en moi? J'en doutais. Il ne cherchait sans doute qu'à m'empêcher de tuer Royal et de me tuer moi-même. N'empêche que la compulsion était bien là, et s'envenimait comme une pointe de flèche plantée dans ma chair. Elle teintait même mon sommeil d'impatience, si bien que je me voyais souvent en rêve en train de me mettre à la recherche de vérité. Je n'avais certes pas renoncé à mon ambition d'assassiner Royal. 10 fois par jour, j'échafaudais des plans. J'inventais des moyens pour retourner à Guet de Négoce et l'attaquer par surprise. Mais la même réserve présidait à tous ces calculs. Après que j'aurais rejoint Vérité, il était devenu absolument inconcevable d'accorder une plus haute priorité à autre chose. À plusieurs jours de marche en amont de Guet de Négoce se trouve une ville du nom d'Appontement. Sans avoir les proportions de sa consœur, et de loin, ce n'en est pas moins une agglomération de belle taille. On y produit du cuir de bonne qualité, non seulement de vache, mais aussi de la peau coriace des Haragar. Une fine faïence créée à partir de l'argile blanche dont les veines bordent le fleuve constituait apparemment l'autre grande industrie de la ville. Nombre d'objets que l'on fabrique en bois, en verre ou en métal partout ailleurs, sont confectionnés en cuir ou en céramique, en Appontement. Non seulement les chaussures et les gants sont taillés dans le cuir, mais aussi les chapeaux et d'autres articles d'habillement, ainsi que les fonds de chaises et jusqu'aux toits et aux parois des étals des marchés. Dans les vitrines, je vis exposer des tranchoirs, des chandeliers et même des seaux en faïence finement émaillés, gravés ou peints dans 100 styles et couleurs différents. Je finis également par dénicher un petit bazar où l'on pouvait vendre n'importe quoi sans que trop de questions fussent posées. J'échangeais mes beaux habits contre la tunique et le pantalon flottant des ouvriers, plus une paire de chausses. J'aurais pu faire une meilleure affaire, mais l'homme me signala plusieurs taches brunâtres au poignet, de la chemise, dont il affirma qu'elle ne partirait pas. Quant à mes jambières, trop petites pour moi, elles s'étaient distendues. L'homme pouvait les laver, mais il n'était pas sûr de pouvoir leur rendre leur taille d'origine. Je baissai les bras et me contentai de ce que j'avais obtenu. Au moins, mes nouveaux vêtements n'avaient pas été portés par un assassin évadé du palais du roi. Dans une boutique plus loin dans la même rue, je me séparai de la bague, du médaillon et de la chaîne contre 7 piécettes d'argent et 7 pièces de cuivre. On était loin du prix d'une place dans une caravane à destination des montagnes, mais c'était la meilleure offre sur les 6 qu'on m'avait faite. La petite femme dodue qui m'avait acheté les objets me toucha timidement le bras, alors que je m'apprêtais à sortir.
Je ne vous demanderai pas ça, messire, si je ne vous voyais pas dans une bien mauvaise passe, fit-elle d'un ton hésitant. Alors, je vous en prie, ne prenez pas mal mon offre.
Laquelle ? Demandai-je. Je m'attendais qu'elle me propose d'acheter l'épée, mais j'avais déjà décidé de ne pas m'en défaire. Je n'en tirerais pas assez pour prendre le risque d'aller désarmer. Elle désigna mon oreille d'un geste hésitant.
Votre boucle d'homme libre. J'ai un client qui collectionne ce genre de rareté. Je crois que celle-ci vient du clan Butran. Est-ce que je me trompe?
Elle avait posé la question d'un ton incertain, comme si elle pensait me voir d'un instant à l'autre me mettre dans une rage noire.
Je n'en sais rien, répondis-je franchement. C'est un ami qui me l'a donné. Je ne m'en séparerai pas pour toutes les pièces d'argent du monde.
Elle eut un sourire entendu, soudain plus assuré.
Oh, pour un pareil objet, on parle de pièces d'or, je le sais bien. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous offrir de l'argent.
D'or ? Répétai-je, abasourdi. Je portai la main à mon oreille pour toucher le petit bijou.
Pour ceci ?
Bien sûr,
acquiesça-t-elle tranquillement, pensant que je cherchais l'enchère. Elle est visiblement d'une facture supérieure. C'est d'ailleurs ce qui fait la réputation du clan Butran. Et puis, il y a la rareté de ce genre d'objet. Le clan Butran n'accorde pas fréquemment la liberté à un esclave. Même si loin de Khalsed, c'est un fait connu. Une fois qu'un homme ou une femme porte les tatouages Butran, ma foi...
Je n'eus guère à la pousser pour la lancer dans une conférence érudite sur le commerce des esclaves en Khalsed, les tatouages d'asservissement et les bagues d'affranchissement. Il devint vite évident qu'elle désirait la boucle d'oreille de Burik, non pour un quelconque client, mais pour elle-même. Un de ses ancêtres avait réussi à gagner sa liberté, et elle possédait encore la bague d'affranchissement que ses propriétaires lui avaient remise comme preuve tangible qu'il n'était plus esclave. La détention d'une telle boucle, si elle correspondait au dernier symbole clanique tatoué sur la joue de l'esclave, constituait le seul moyen par lequel l'esclave en question pouvait se déplacer librement en Khalsed, sans même parler de quitter le pays. Un esclave fauteur de troubles se repérait aisément au nombre de tatouages sur son visage, qui décrivait l'historique de ses changements de propriétaire, si bien que l'expression « face de carte » désignait un esclave qui avait été vendu dans tout Khalsed, un trublion propre à rien, sinon aux galères ou aux mines. Mon interlocutrice me pria d'ôter mon clou d'oreille et de l'examiner attentivement, d'observer la finesse des maillons d'argent dont était constituée la résille qui enserrait le saphir. Car c'était bel et bien un saphir.
« Voyez-vous, expliqua-t-elle, l'esclave doit non seulement gagner sa liberté, mais ensuite continuer de travailler pour son maître afin de rembourser le prix d'un tel bijou. Sans lui, sa liberté ne vaut guère mieux qu'une laisse rallongée. Il ne peut aller nulle part sans se faire arrêter au point de contrôle. Il ne peut accepter aucune tâche d'homme libre sans le consentement écrit de son ancien propriétaire. L'ancien maître n'est plus responsable, ni de son logement, ni de sa nourriture, mais l'ancien esclave n'en a pas pour autant obtenu sa liberté. »
Elle me proposa 3 pièces d'or sans l'ombre d'une hésitation. C'était plus que le prix d'une place dans une caravane. J'aurais pu m'acheter un cheval, un bon, et non seulement m'inscrire à une caravane, mais en plus voyager confortablement. Pourtant, je sortis de l'échoppe avant que la femme pût me faire changer d'avis en augmentant son offre. Une pièce de cuivre me paya un morceau de pain grossier que je mangeais assis près des quais, l'esprit traversé de 1000 réflexions. Cette boucle avait sans doute appartenu à la grand-mère de Burik. Je l'avais entendu dire qu'elle avait été esclave, mais qu'elle avait gagné sa liberté. Quelle importance attachait-il à ce bijou pour l'avoir donné à mon père? Et quelle importance mon père y attachait-il pour l'avoir gardé? Patience était-elle au courant de son histoire quand elle me l'avait remis? Je suis humain. Les pièces d'or me tentaient. Je songeais que, si Burik connaissait ma situation, il m'aviserait de vendre la boucle sans tergiverser, car ma vie et ma sécurité lui tenaient plus à cœur qu'un clou d'oreille en argent et saphir. Ainsi je pourrais m'offrir un cheval, me rendre dans les montagnes pour y rejoindre Vérité, et mettre un terme au tiraillement constant de son ordre d'art, qui m'était comme une démangeaison que je ne pouvais gratter. Le regard perdu de l'autre côté du fleuve, je considérais finalement l'énormité du voyage qui m'attendait. Je devais d'abord traverser une région quasi désertique pour rallier le lac bleu. Là, il me faudrait franchir le lac par un moyen dont je n'avais pas la moindre idée. Sur l'autre rive, des pistes forestières gravissaient les piémonts jusqu'aux terres chaotiques du royaume des montagnes. Je devais parvenir à Jaomp, la capitale, et y obtenir, et Das savait comment, une copie de la carte dont Vérité s'était servie. Elle s'appuyait sur de vieux écrits tirés de la bibliothèque de Jaomp, où se trouvait peut-être encore l'original, qui seul pourrait me conduire à Vérité, quelque part dans les territoires inconnus par-delà le royaume des montagnes. Pour cela, j'aurais besoin de tout l'argent, de toutes les ressources disponibles. Pourtant, je décidais de garder le clou d'oreille, non à cause de ce qu'il signifiait pour Burik, mais à cause de ce qu'il signifiait pour moi. C'était le dernier lien physique qui me rattachait à mon passé, à celui que j'avais été, à l'homme qui m'avait élevé, et même au père qui l'avait autrefois porté. Aussi me fit-il curieusement difficile de faire un geste que je savais aviser. Je parvins néanmoins à dégrafer la petite attache de la boucle, J'avais conservé les chutes de soie que j'avais utilisées pour ma comédie à Gaîté de Négoce, et je choisis la plus petite pour en envelopper soigneusement le bijou avant de le ranger dans ma bourse. La marchande s'y était intéressée de trop près et en avait trop bien noté les caractéristiques. Si Royal me faisait malgré tout rechercher, cette boucle serait un des détails par lesquels on me décrirait. Je déambulais ensuite par la ville en prêtant l'oreille au bavardage, dans l'espoir d'apprendre ce dont j'avais besoin sans poser de questions. Je flânais sur la place du marché, passais d'un étal à l'autre, d'un air désœuvré, puis m'allouais la somme princière de 4 pièces de cuivre pour acheter ce qui me paraissait à présent des articles d'un luxe exotique. Un petit sac d'herbe à tisane, des fruits secs, un bout de miroir, une petite casserole et une timbale. À plusieurs éventaires où l'on proposait des simples, je demandais de l'écorce elfique, mais soit les vendeurs ne connaissaient pas ce produit, soit ils portaient un autre nom en Bauge. Ce n'était pas grave, me dis-je, car je ne pensais pas avoir besoin de ces vertus reconstituantes. Du moins, l'espérais-je. Aussi me rabattis-je sur des graines d'une plante dite « jupe du soleil » qui, m'assura-t-on, réveillait la vigilance, si fatigué fut-on. Contre 2 pièces de cuivre, une chiffonnière me laissa fouiller dans sa carriole, où je dénichais un manteau malodorant mais pratique, et des jambières qui promettaient de me fournir autant de démangeaisons que de chaleur. Je lui échangeai mes derniers coupons de soie jaune contre un mouchoir de tête qu'avec force remarque paillarde, elle me montra comment nouer sur mon crâne. Enfin, comme je l'avais fait pour mon baluchon perdu, j'empaquetai mes affaires dans mon manteau, puis me rendis aux abattoirs, à l'est de la ville. Jamais je n'avais senti pareille puanteur. C'était un mélange de l'odeur d'innombrables rangées d'enclos bourrés d'animaux, de véritables montagnes de fumier, du sang, et des déchets des hangars d'abattage, et des vapeurs âcres, des fosses de tannerie. Comme si l'affront à mon odorat ne suffisait pas, l'air était plein du beuglement du bétail, du couinement des haragards, du bourdonnement des mouches à viande, et des cris des hommes qui déplaçaient les bêtes d'un enclos à l'autre ou les menaient se faire abattre. J'avais beau me raidir, j'étais incapable de rester sourd à la détresse aveugle et à l'affolement des animaux. Ils n'avaient pas une claire conscience de ce qui les attendait, mais l'odeur du sang frais et les hurlements des autres bêtes suscitaient en eux une terreur équivalente à celle que je ressentais lorsque je rampais sur le pavage des cachots. Pourtant, il me fallait rester, car c'était là que les caravanes arrivaient et que certaines se formaient. Les éleveurs venus vendre leur bétail repartaient ensuite chez eux, naturellement, et la plupart devaient acheter des denrées commercialisables à rapporter afin de rentabiliser leur retour. J'avais l'espoir de trouver du travail auprès de l'un d'eux et de gagner ainsi une place dans une caravane qui me mènerait au moins jusqu'au lac bleu. Je ne tardais pas à me rendre compte que je n'étais pas le seul à nourrir de tels espoirs. Une foire à l'embauche se tenait dans le plus grand désordre entre 2 tavernes qui faisaient face aux enclos. Certains des hommes présents étaient des bergers venus du lac bleu avec un troupeau, qui étaient restés en appontement pour dépenser leurs gains et qui, les poches vides et loin de chez eux, cherchaient à repartir. Pour quelques-uns, conducteurs de bestiaux, c'était le cours normal de leur vie. Je vis quelques jeunes gens, manifestement à la recherche d'aventures, de voyages et d'une occasion de voler de leurs propres ailes. Et enfin, il y avait ceux qui étaient à l'évidence l'allié de la ville. Individus incapables de trouver un travail stable ou de demeurer longtemps au même endroit. Je n'entrais véritablement dans aucune de ces catégories, mais je finis par me retrouver au milieu des conducteurs de bétail. Selon l'histoire que je m'étais inventée, ma mère était morte récemment et avait légué ses biens à ma sœur aînée, pour qui j'étais une bouche inutile à nourrir. J'avais donc décidé de me rendre chez mon oncle, qui habitait au-delà du lac bleu. Mais j'étais tombé à court d'argent avant d'arriver chez lui. Non, je n'avais jamais conduit de troupeau, mais grâce à notre fortune, nous possédions des chevaux, du bétail et des moutons, et je connaissais les rudiments des soins à leur apporter. En outre, j'avais, disait-on, la manière avec les animaux. Je ne trouvais pas d'embauche ce jour-là, comme la grande majorité de mes compagnons, et nous finîmes par nous installer pour la nuit, là où nous avions passé le plus clair de la journée. Un apprenti boulanger passa parmi nous avec un plateau d'invendu, et je me fendis d'une nouvelle pièce de cuivre pour un long pain à la mie noire et piquetée de graines, que je partageai avec un solide gaillard aux cheveux filasses qui s'échappait en mèche de son mouchoir de tête. En retour, Chris m'offrit de la viande séchée, une timbale du vin le plus épouvantable que j'eusse jamais goûté, et des commérages à foison. C'était un disputailleur, un de ces hommes qui prennent les positions les plus extrémistes sur n'importe quel sujet, et qui ont, non des conversations, mais des querelles d'opinion avec leurs semblables. Comme je ne répondais guère, il engagea bientôt nos voisins dans une discussion chicanière sur la politique actuelle de Bourges. Quelqu'un alluma un petit feu, plus par envie de lumière que de chaleur, et plusieurs bouteilles circulèrent. Pour ma part, je m'allongeai, la tête appuyée sur mon baluchon, et je fis semblant de somnoler pour mieux écouter. Nul ne parla des pirates rouges, ni de la guerre qui faisait rage sur les côtes, et je compris soudain le mécontentement de ces gens à l'idée de payer des impôts pour protéger des côtes qu'ils n'avaient jamais vues, pour construire des navires de guerre destinés à un océan qu'ils n'imaginaient même pas. Leur océan, c'était les plaines arides qui séparaient Appontement du lac Bleu. Et ces conducteurs de bestiaux, les marins qui les sillonnaient. Les six duchés n'étaient pas six régions naturellement regroupées en une seule, mais un royaume qui tenait uniquement parce qu'une puissante lignée de souverains avait enfermé ses diverses parties derrière une frontière commune et les avait décrétées unies. Si tous les duchés côtiers devaient tomber aux mains des pirates, cela n'aurait guère d'importance pour les gens de l'intérieur. Il y aurait toujours des troupeaux à mener et du vin abominable à boire. Il y aurait toujours l'herbe, le fleuve et les rues poussiéreuses. Je ne pus dès lors m'empêcher de me demander de quel droit nous obligions ces gens à payer pour une guerre qui se déroulait si loin de chez eux. La Bourg et Bauges avaient été annexés et agrégés aux autres duchés par la force. Ils n'étaient pas venus implorer protection militaire ni échanges commerciaux. Certes, ils en avaient profité, une fois affranchis de leurs petits seigneurs nomades et nantis d'un marché qui ne demandait pas mieux qu'acheter leur viande, leur cuir et leurs cordes. Combien de toiles à voile, combien de rouleaux de bons cordages de chanvre vendaient-ils avant de faire partie des six duchés? Néanmoins pour eux, l'avantage restait apparemment bien mince. Je me lassais de ces réflexions. La conversation retombait constamment sur des récriminations contre l'embargo imposé au royaume des montagnes. Et je commençais à m'assoupir quand la mention du grêlé raviva mon attention. J'ouvris les yeux et redressai la tête. Celui qui en avait parlé l'avait fait dans l'optique traditionnelle, celle du personnage annonceur de désastre, en disant d'un ton moqueur que les moutons de Ensil avaient dû tous le voir, car ils mouraient les uns après les autres, dans leur enclos, avant que le pauvre homme eût le temps de les vendre. L'idée de bêtes malades dans des quartiers aussi confinés me fit froncer les sourcils. Mais un autre homme s'esclaffa et déclara que, par décret du roi, apercevoir le grêlé n'était plus signe de malchance, mais du plus grand bonheur qui pouvait advenir.
« Si je voyais ce vieux clochard, au lieu de me sauver en tremblant de peur, je te l'empoignerais, et je le conduirais auprès du roi lui-même. Il a offert 100 pièces d'or à qui pourra lui amener le grêlé de serre. »«
50, pas 100,
le coupa Chris, railleur. Il avala une nouvelle rasade à la bouteille.
« 100 pièces d'or pour un vieux rabougri, tu parles. Si, 100, pour lui tout seul, et 100 autres pour l'homme loup qui le suit partout. » Le crieur de ville l'a annoncé cet après-midi. Ils sont entrés en douce dans le château du roi, à guet de négoce, et ils ont tué des gardes grâce à leur magie des bêtes. Ils leur ont arraché la gorge pour que le loup puisse boire leur sang. C'est après lui qu'ils en ont maintenant. Il paraît qu'il est habillé comme un gentilhomme, avec une bague, un collier et une pendouille en argent à l'oreille, et puis qu'il a une mèche blanche dans les cheveux, qui lui vient d'un ancien combat avec notre roi. Où il a aussi attrapé une balafre sur la figure et un nez cassé. Ouais, et en plus, cette fois-ci, le roi lui a fait une belle entaille le long du bras. »
Un murmure admiratif monta d'une partie du groupe. Moi-même, je dus saluer le toupet de Royal, tout en enfonçant mon visage dans mon baluchon, comme si je m'apprêtais à dormir. Les bavardages continuèrent.
« Il paraît qu'il a le vif !» et qu'il est capable de se transformer en loup à la lumière de la lune. Le vieux et lui, ils dorment de jour et ils se baladent la nuit. On dit que c'est un mauvais sort que la reine étrangère a jeté au roi quand il l'a chassé de serre, parce qu'elle avait essayé de piquer la couronne. Le grêlé, à ce qu'on raconte, c'est une moitié d'âme volée au corps du vieux roi subtil par la magie des montagnes de la reine, et qui erre sur les routes et dans les rues de tous les six duchés, en apportant le malheur partout où elle passe. Et elle a la tête du vieux roi lui-même. Des couillonnades, oui,
fit Chris avec mépris. Et il reprit une gorgée de vin. Mais certains des autres, passionnés, se rapprochèrent de l'orateur et le pressèrent de poursuivre.
En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, reprit-il d'un ton guindé, que le grêlé, c'est la moitié d'âme de subtil, et qu'il ne pourra se reposer que quand la reine des montagnes, qui l'a empoisonné, sera aussi dans sa tombe.
Alors, si c'est le fantôme de subtil, pourquoi le roi royal offre une récompense de 100 pièces d'or pour lui?
Demanda Chris d'un ton mordant.
C'est pas son fantôme, c'est sa moitié d'âme. Il a volé une partie de l'âme du roi pendant qu'il mourait, et subtil ne pourra se reposer que quand le grêlé sera mort, et que l'âme du roi aura retrouvé la moitié qui lui manque. Et on dit aussi,
il baissa la voix,
qu'on n'avait pas bien tué le bâtard, qu'il est ressuscité sous la forme d'un homme-loup. Avec le grêlé, il veut se venger du roi royal pour détruire le trône qu'il n'a pas pu lui voler, parce qu'il était de mèche avec la mégère des montagnes pour devenir roi une fois qu'il se serait débarrassé de subtil.
La nuit était parfaite pour ce genre de fable. La lune pleine et orange flottait bas dans le ciel, tandis que le vent nous apportait les meuglements accablés et les raclements de sabots des bêtes dans leurs enclos, mêlés à la puanteur de la viande en décomposition et des peaux tannées. Des nuages en lambeaux passaient de temps en temps devant la face de la lune. Les propos de l'homme m'avaient déclenché un frisson d'angoisse, mais pas pour les raisons qu'il aurait pu supposer. Je m'attendais à tout instant à me faire réveiller du bout d'une botte ou à entendre crier à la cantonade.
« Eh, si on le regardait de plus près, celui-là !»
Pourtant, j'en fus pour mes craintes. Le ton de l'histoire incitait les auditeurs à guetter des yeux de loup dans le noir, pas à se méfier d'un ouvrier fatigué qui dormait au milieu d'eux. Néanmoins, c'est le cœur battant que je passais en revue les gens qui avaient croisé mon chemin. Le tailleur chez qui j'avais changé de vêtements reconnaîtrait la description. La femme qui s'était intéressée à ma boucle d'oreille aussi, peut-être. Voire également la vieille chiffonnière qui m'avait aidé à nouer mon mouchoir sur la tête. Certains répugneraient à franchir le pas. D'autres préféreraient ne pas avoir affaire aux gardes royaux. Mais quelques-uns n'auraient pas ces scrupules. Et je devais agir comme si c'était le cas de tous. L'orateur, poursuivant son récit, l'enrichissait de détails sur les ambitions démoniaques de Kétriken, qui avait couché avec moi, afin de concevoir un enfant dont nous pourrions nous servir pour nous emparer du trône. Sa voix s'était chargée de mépris, et nul ne tenta de tourner ses assertions en dérision. Même Chris, à côté de moi, paraissait d'accord, comme si ses complots contournés étaient de notoriété publique. Il prit la parole et confirma mes pires craintes.
« À t'écouter, on dirait qu'on vient de l'apprendre. Pourtant, tout le monde savait que le gros ventre, ce n'était pas vérité qui le lui avait fait, mais le bâtard au vif. Si Royal n'avait pas chassé cette putain des montagnes, on se serait retrouvé avec un prétendant au trône pareil que le prince Pi. »
Un murmure d'acquiescement accueillit cette déclaration. Prenant l'attitude d'un homme qui s'ennuie, je fermai les yeux et me rallongeai, en espérant que mon immobilité et mes paupières baissées dissimuleraient la rage qui menaçait de me consumer. Je tirai mon mouchoir plus bas sur mes cheveux. Quel but royal! Car je savais que ce poison était issu de lui, poursuivait-il en faisant répandre des potins aussi révulsants. Cependant, je n'osais poser aucune question, craignant que ma voix ne trahisse mon trouble et ne souhaitant pas paraître ignorer ce qui était manifestement de savoir commun. Aussi, sans bouger, continuai-je à écouter avec une attention farouche. Chacun savait apparemment que Kétriken avait regagné les montagnes, mais la virulence du mépris à son égard laissait penser que la nouvelle était récente. On grommelait aussi que c'était la faute de la sorcière des montagnes, si l'école était fermée aux honnêtes marchands de labour et de bauge,
Un homme affirma même que les liens d'échange coupés avec la côte, les montagnes voyaient dans la situation l'occasion d'acculer les deux duchés à se plier à leur volonté sous peine de perdre toute leur route commerciale. Un autre raconta qu'une simple caravane escortée par des soldats des six duchés aux couleurs de royales avait été refoulée à la frontière des montagnes. Pour moi, ce n'était évidemment que des calembres d'Aisne. Le royaume des montagnes avait besoin du commerce avec Bauges et Labourd. Les livraisons de grains étaient plus vitales pour lui que le bois et les fourrures pour les gens des plaines. D'ailleurs, Jahanpe ne l'avait pas caché à l'époque. Cette liberté d'échange était à la base du mariage de Kétriken avec Vérité. Même si la reine avait regagné les montagnes, je la connaissais assez bien pour savoir qu'elle ne donnerait jamais son accord à une rupture des liens commerciaux entre son peuple et les six duchés. Elle avait trop d'attaches dans les deux communautés et se voulait trop l'oblat de tous. S'il existait un embargo, comme je l'avais entendu dire, c'était Royal qui l'avait imposé, j'en étais convaincu, mais cela n'empêchait pas les hommes qui m'entouraient de maugréer contre la sorcière des montagnes et sa vendetta contre le roi. Royal fomentait-il une guerre contre les montagnes? Avait-il tenté d'y faire pénétrer des troupes armées sous couvert d'une escorte pour des marchands? Non, c'était ridicule. Longtemps auparavant, mon père y avait été envoyé pour formaliser frontières et accords commerciaux avec les montagnards, mettant ainsi un terme à de longues années d'escarmouches et de pillages frontaliers. Ces années de combat larvés avaient enseigné au roi subtil qu'il était impossible de prendre et de tenir par la force les cols et les pistes de ce pays. Malgré moi, je poursuivis mon raisonnement. C'était Royal qui avait suggéré Kétriken comme épouse pour Vérité, puis qui lui avait fait la cour au nom de son frère. Ensuite, alors que le mariage approchait, il avait essayé de tuer Vérité dans l'espoir d'épouser lui-même Kétriken. Il avait échoué, et tous ses calculs avaient été dévoilés à quelques rares personnes. Ainsi, il avait vu s'échapper l'occasion de faire main basse sur Kétriken et ce qu'elle représentait, à savoir l'accession, tôt ou tard, au trône des montagnes. Une conversation me revint que j'avais surprise entre Royal et Galen le traître. Il paraissait considérer que la sécurité de Labourd et de Bauges serait mieux assurée si ces duchés commandaient l'école des montagnes auxquelles ils étaient adossés. Royal songeait-il aujourd'hui à s'arroger de force ce qu'il avait autrefois espéré obtenir par le mariage? S'imaginait-il pouvoir monter suffisamment le peuple contre Kétriken pour faire croire à ses partisans qu'il menait une guerre juste, une guerre de vengeance contre une sorcière montagnarde, une guerre destinée à maintenir ouvertes des routes commerciales vitales? Royal, me dis-je, était capable de se convaincre de tout ce qu'il avait envie de croire. Enivré d'alcool, la tête couronnée de fumée, il était sans doute déjà persuadé de la véracité de ces fables échevelées. 100 pièces d'or pour Imbre, et autant pour moi. Je savais pertinemment ce que j'avais fait dernièrement pour mériter une telle récompense, mais Imbre, j'aurais beaucoup aimé le savoir. J'avais travaillé des années à ses côtés, et il avait toujours agi de manière anonyme et discrète. Il n'avait toujours pas de nom. Mais son visage grêlé et sa ressemblance avec son demi-frère étaient désormais connus. Cela signifiait que quelqu'un quelque part l'avait vu. J'espérais qu'il était en bonne santé et en sécurité, où qu'il pût être. Une partie de moi-même aspirait à faire demi-tour, à retourner en serre pour le chercher, comme si je pouvais, et d'as sait comment, le protéger. Rejoins-moi. Quelles que fussent mes aspirations, quels que fussent mes sentiments, j'irai d'abord retrouver Vérité, je le savais. Je me répétais cette promesse et finis par sombrer dans une somnolence inquiète. Je rêvais, mais c'était des songes sans substance, à peine teintés d'art, qui vacillaient et tournaient comme agités par les vents d'automne. Mon esprit sembla faire un méli-mélo des images de toutes les personnes qui me manquaient. Et je vis Imbre qui prenait le thé avec patience et Brodette, vêtu d'une robe de soie rouge piquetée d'étoiles, à la coupe très démodée. Il adressait des sourires gracieux aux deux femmes et faisait naître le rire même dans les yeux de Patience, bien qu'il parût étrangement épuisé. Je rêvais ensuite de Molly,
qui jetait un coup d'œil à l'extérieur par la porte d'une chaumière, tandis que Burick, dehors, resserrait son manteau autour de lui pour se protéger du vent, et lui disait de ne pas s'inquiéter, qu'il ne serait pas absent longtemps, que les tâches trop dures pouvaient attendre son retour, qu'elle devait rester enfermée, et ne s'inquiéter que d'elle-même. J'eus même une vision de célérité. Elle s'était réfugiée dans les légendaires cavernes de glace du glacier des Voreux, en Béarn, où elle se cachait en compagnie des quelques troupes qu'elle avait pu rallier et de nombreux Béarnais privés de logis par la guerre contre les pirates. Je la vis soigner Félicité, qui souffrait de fièvre et d'une blessure infectée au ventre occasionnée par une flèche. Enfin, je rêvais du fou, assis devant un âtre, le regard perdu dans les flammes. Son visage blanc était devenu ivoire, et l'on n'y lisait plus le moindre espoir. J'avais l'impression de me trouver dans le feu et de plonger mes yeux profondément dans les siens. Non loin, et pourtant pas si près que cela, Ketriken pleurait inconsolablement. Mes songes se fanèrent soudain, et je vis des loups qui chassaient, lancés à la poursuite d'un cerf. Mais c'étaient des loups sauvages, et si le mien se trouvait parmi eux, c'est à eux qu'il appartenait, et non plus à moi. Je m'éveillai avec la migraine et une douleur dans le dos due à un caillou sur lequel j'avais dormi. Le soleil commençait à peine à fendre le ciel, mais je me levai tout de même pour me rendre à un puits, tirer de l'eau et boire autant que mon estomac le permettait. Burick m'avait dit un jour que se remplir d'eau était un bon moyen de tromper la faim. J'allais devoir mettre aujourd'hui cette théorie en pratique. J'aiguisai mon poignard, me demandai si j'allais me raser, puis décidai de n'en rien faire. Mieux valait laisser ma barbe couvrir ma balafre le plus vite possible. C'est néanmoins avec contrariété que je passais la main sur le chaume qui me démangeait déjà. Je retournai auprès de mes compagnons toujours endormis. Il commençait à peine à s'agiter quand un petit homme corpulent fit son apparition et annonça d'une voix stridente qu'il engageait quelqu'un pour déplacer ses moutons d'un enclos à l'autre. C'était l'affaire d'à peine une matinée de travail, et la plupart des ouvriers refusèrent, préférant demeurer là où ils avaient une chance de se faire engager dans une caravane à destination du lac Bleu. L'homme prit un ton presque implorant pour expliquer qu'il devait faire traverser la ville à ses bêtes, et que l'opération devait donc s'effectuer avant que la circulation ne batte son plein dans les rues. Pour finir, il offrit le petit déjeuner en plus de la paix, et c'est, je crois, ce qui me décida à l'accompagner. Il s'appelait Damon, et il ne cessa de parler tout le long du chemin, les mains toujours en mouvement, pour m'exposer, bien inutilement, la façon dont il voulait que je traite ses moutons. Ils étaient de bonne race, de très bonne race, et il ne tenait pas à ce qu'ils se blessent ni même qu'ils s'énervent. Avec calme et lenteur, telle était la meilleure manière de déplacer des moutons. Je hochai la tête sans mot dire et le suivis jusqu'à un enclos tout au bout de la rue des abattoirs. Je compris bientôt pourquoi il était si pressé d'emmener son troupeau ailleurs. L'enclos voisin devait avoir appartenu à l'infortuné Ensil, car quelques moutons s'y trouvaient encore debout. La plupart étaient à terre, morts ou mourants de dysenterie. La puanteur de leur mâle ajoutait une nouvelle note pestilentielle aux autres odeurs qui flottaient dans l'air. Trois ou quatre hommes étaient occupés à dépecer les bêtes crevées pour sauver ce qui pouvait l'être de ce désastre. Ils travaillaient à la va-vite, en mettant du sang partout, et abandonnaient les carcasses écorchées au milieu des animaux agonisants. Ce spectacle macabre m'évoqua un champ de bataille sur lequel des détrousseurs faisaient le tour des cadavres. J'en détournai les yeux et allai aider Damon à rassembler son troupeau. Employer le vif sur des moutons est pratiquement inutile, tant ils sont écervelés. Même ceux qui paraissent sereins le sont uniquement parce qu'ils ont oublié à quoi ils pensaient. Et les pires d'entre eux sont capables d'une méfiance extraordinaire, au point que le geste le plus anodin les terrifie. Aussi, la seule façon de les aborder est celle des chiens de berger, en les persuadant que c'est eux qui ont songé à l'endroit où l'on veut les mener, puis en les encourageant à y aller. Je me divertis brièvement en songeant à la manière dont Œil de Nuit aurait réuni et déplacer ces crétins laineux. Mais le seul fait que je pense à un loup en conduisit certains à piler net en jetant des regards affolés autour d'eux. Je leur suggérais qu'ils avaient intérêt à suivre les autres avant de s'égarer, et ils tressaillirent, comme étonnés de cette idée. Puis, ils réintégrèrent le reste du troupeau. Damon m'avait donné, outre un long bâton, l'indication générale de notre destination. Responsable de l'arrière et des flancs de la troupe, je ne cessais de faire des allées et retours en courant, et je haletais bientôt comme un chien. Tandis qu'en tête, il veillait à ce que les bêtes ne s'égaillent pas à chaque carrefour. Arrivés à la sortie de la ville, nous les installâmes dans un des enclos délabrés qui subsistaient là. Dans un autre, était parqué un beau taureau roux, et 6 chevaux dans un troisième. Quand nous eûmes repris notre souffle, mon employeur m'expliqua qu'une caravane se formerait à cet endroit avant de partir pour le lac Bleu. Il avait acheté les moutons la veille et comptait les ramener chez lui pour grossir ses troupeaux. Quand je lui demandai s'il avait besoin d'aide pour les conduire, il me considéra d'un air songeur, mais garda le silence. Il tint parole quant au petit déjeuner. Nous eûmes droit à du gruau et du lait, chair simple à laquelle je trouvai un goût merveilleux. Le repas nous fut servi par une femme qui habitait près des enclos et gagnait sa vie en surveillant les animaux parqués, et en fournissant repas, et parfois couchage, à ceux qui en avaient la charge. Après que nous nous fûmes restaurés, Damon m'expliqua avec moult hésitation qu'en effet, il avait besoin d'un aide en plus, voire deux pour le voyage, mais qu'à la coupe de mes vêtements, il me jugeait peu averti du genre de travail qu'il désirait. Il m'avait engagé ce matin, parce que j'étais le seul apparemment bien réveillé et prêt à mettre la main à la pâte. Je lui narrai l'histoire de ma sœur sans cœur et lui assurai que j'étais familier des soins à donner aux moutons, aux chevaux ou au bétail. À l'issue de longues tergiversations, il m'embaucha, aux conditions qu'il assurerait ma subsistance pendant le voyage et qu'au terme, il me paierait 10 piécettes d'argent. Il me conseilla d'aller chercher mes affaires, de faire mes adieux et d'être de retour le soir sans faute, sans quoi il engagerait quelqu'un à ma place. « Je n'ai rien à récupérer, et personne à qui dire au revoir, » répondis-je. Il n'aurait surtout pas été prudent de retourner en ville après ce que j'avais entendu la veille au soir. J'aurais souhaité que la caravane partît sur l'instant. L'espace d'un instant, il parut stupéfait, puis il prit l'air réjoui.
« Eh bien moi, j'ai les deux à faire, alors je vais te laisser ici t'occuper des moutons, il faudra leur apporter de l'eau. C'est pour ça, entre autres, que je les avais placés dans les enclos de la ville. Il y a une pompe là-bas. Mais ça ne me plaisait pas de les voir aussi près de moutons malades. Donc, tu leur apportes de l'eau et j'enverrai quelqu'un avec une charrette de foin. Tu leur en donneras une bonne ration. Attention, c'est à tes débuts que je jugerai comment nous allons nous entendre ensuite. »
Et il continua ainsi, sans se lasser, à me décrire par le détail la façon dont il voulait que j'abreuve ses bêtes, et le nombre de tas de fourrage que je devais faire pour que chaque animal ait sa part. C'était prévisible, je n'avais pas l'air d'un berger. Je songeais néanmoins avec nostalgie à Burick et à sa manière tranquille de présumer que je connaissais la tâche à effectuer et que je l'accomplirais efficacement. Comme il s'en allait, il se retourna brusquement.
« Et ton nom, mon garçon ?»
me cria-t-il.
« Tom, »
répondis-je après une brève hésitation. C'était le prénom qu'avait voulu me donner Patience, avant que j'eusse accepté celui de Fitz Chevalerie. Ce souvenir me rappela une pique que m'avait un jour lancée Royal.
« Il te suffit de te gratter un peu pour trouver personne, le garçon de chenil. »
Aurait-il jugé supérieur Tom le berger? J'en doutais. Le puits se trouvait assez loin des enclos, et il était muni d'un seau à l'extrémité d'une très longue corde. En travaillant d'arrache-pied, je réussis à remplir l'abreuvoir. À dire le vrai, je le remplis plusieurs fois avant que les moutons cessent de le vider. Une charrette de foin arriva sur ces entrefaites, et je déposai scrupuleusement un tas de fourrage à chacun des 4 coins de l'enclos, exercice exaspérant s'il en fut, car les moutons se précipitaient en bloc sur chaque tas nouvellement créé et le dévoraient. C'est seulement une fois qu'ils furent tous rassasiés, sauf les plus faibles, que je pus enfin établir un tas dans chaque angle. Pour passer le reste de l'après-midi, j'allais à nouveau chercher de l'eau. La femme m'autorisa à me servir d'une grande casserole pour la faire chauffer et d'un endroit discret pour me débarrasser du plus gros de la crasse que j'avais gagnée sur la route. Mon bras se remettait bien. « Pas mal pour une blessure mortelle, » me dis-je en espérant qu'Imbre n'aurait jamais vent de mon erreur. Je l'entendais s'esclaffer d'ici. Ma toilette achevée, j'allais de nouveau chercher de l'eau et la mis à chauffer pour laver les vêtements que j'avais achetés à la chiffonnière.
Je découvris à cette occasion que le manteau était d'un gris beaucoup plus clair que je ne l'avais cru. Je ne parvins pas à en éliminer tout à fait l'odeur, mais quand je le mis à sécher, il sentait moins son ancien propriétaire et davantage la laine mouillée. Damon ne m'avait rien laissé à manger, mais la femme proposa de m'offrir un repas si j'acceptais de tirer de l'eau pour le taureau et les chevaux, car au bout de 4 jours, elle était lasse de cette corvée. Je m'exécutais et gagnais ainsi une assiette de ragoût accompagnée de biscuits et d'une chope de bière pour faire descendre le tout. J'allais ensuite jeter un coup d'œil sur les moutons, que je trouvais parfaitement calmes. Par habitude, j'en fis autant avec le taureau et les chevaux. Puis, accoudé à la barrière, je regardais les animaux en me demandant ce que j'éprouverais si toute ma vie s'arrêtait à cela. Et je pris conscience que cela ne m'aurait pas déplu, pour peu qu'une femme comme Molly m'attendît le soir à la maison. Une grande jument blanche vint frotter son museau contre ma chemise pour que je la gratte. Je la caressais et découvrit qu'elle avait la nostalgie d'une fille de ferme au visage couvert de taches de rousseur qui lui apportait des carottes et l'appelait princesse. Y avait-il quelqu'un dans le monde qui eût réussi à vivre l'existence qu'il désirait? Œil de nuit peut-être. Je le lui souhaitais de tout cœur, tout en espérant égoïstement lui manquer parfois. Pris d'une humeur lugubre, je songeais que cela expliquait peut-être que Vérité ne revint pas. Excédé des histoires de couronne et de trône, il avait peut-être pris la clé des champs, tout simplement. Mais alors même que me venait cette réflexion, je savais qu'il n'en était rien. Non, pas lui. Il s'était rendu dans les montagnes pour demander secours aux anciens. Et s'il avait échoué, il trouverait un autre moyen. Quoi qu'il en fût, il m'avait appelé pour que je l'aide.